Europe 1 Soir Weekend, Arthur Delaborde.
Ça fait débat jusqu'à 19h sur Europe 1 avec mes invités ce soir. William T, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va peut-être commencer par commenter évidemment ce 1er mai qui nous attend demain. L'objectif est assez clair du côté des syndicats et aussi de la NUPES, c'est de relancer la mobilisation. Comment vous voyez les choses? Peut-être William T pour commencer.
Écoutez, est-ce qu'il y aurait des gens qui vont venir manifester? Oui. La question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à réussir leur objectif qui est de faire plier le gouvernement sur la réforme des retraites? Là, j'en suis moins certain. En fonction des estimations, on peut aller à 500 000, 600 000, voire même 1 million. Allez, même, imaginons qu'on prenne les chiffres de la CGT, ils arrivent à 3 millions de manifestants. Est-ce que pour autant, si vous avez 3 millions de manifestants, Emmanuel Macron, avec les circonstances économiques et financières que l'on connaît, c'est-à-dire la baisse de la note française sur la dette, va retirer sa réforme des retraites et limiter ses marges de manœuvre alors qu'il a déjà sacrifié tout son capital politique? Non. Donc la question essentielle qui doit se poser les syndicats, c'est comment faire avec ce 1er mai pour l'utiliser et le convertir en capital politique et le convertir en action politique, soit pour obtenir d'Emmanuel Macron des aménagements sur les textes, mais c'est difficile dans la mesure où il a été promulgué et validé par le Conseil constitutionnel, soit obtenir des aménagements sur les prochains textes. Et à ce moment-là, peut-être éventuellement qu'ils ont des possibilités, que ce soit sur le texte sur les partages de valeur, un texte sur l'emploi des seniors ou des textes permettant de soutenir le pouvoir d'achat.
Frédéric Dabi, vous faites la même analyse?
Oui, je partage ce que dit William Tay. Il y a d'abord, on l'a vu dès le début du mouvement social, dès le mois de janvier, une logique d'intériorisation. Les Français, dans toutes les enquêtes, on a vu bien sûr les enquêtes faites avec Europe 1, 2/3 des Français qui rejetaient la réforme, 3/4 des personnes les plus concernées, à savoir les salariés, mais pour autant, en même temps, systématiquement, entre 2/3 et 3/4, c'est même monté à 80% de Français qui, malgré tout, avaient le sentiment que Emmanuel Macron ferait voter, ferait appliquer sa loi. C'est ce qui s'est passé. Alors, maintenant, il y a ce 1er mai. On en fait un rendez-vous extrêmement important. Un cliffhanger, comme on dit dans les séries américaines, c'est-à-dire les moments où les choses peuvent basculer. Oui. C'est ce qu'on disait au moment de la grande marche pour le pouvoir d'achat de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise du 7 octobre. On sait comment ça s'est passé. C'est ce qu'on disait hier. Le Stade de France, ça va être un moment terrible pour Emmanuel Macron. Il ne s'est absolument rien passé. Maintenant, les Français n'ont pas tourné la page. Moi, ce qui me frappe dans toutes nos enquêtes, ils ne se disent pas « ça y est, c'est voté, on passe à autre chose ». On est toujours sur un ressentiment très fort, une personnalisation de la relation qui s'est envenimée entre les Français et Emmanuel Macron. Et la question qui se pose, c'est un peu ce que disait William Tay, est-ce que demain, c'est une logique de baroud d'honneur, la dernière grande manifestation avec plus ou moins de monde, même si maintenant, on ne va pas se cacher les choses. Il y a une logique du chiffre politique. Avant, il y avait un écart entre 1 et 3, entre le chiffre de la CGT, par exemple, et le chiffre de la préfecture, maintenant, c'est 1 à 10, 1 à 12. Les chiffres, maintenant, perdent leur sérieux. Mais est-ce que c'est une logique de baroud d'honneur ou est-ce que c'est une logique de continuation, de perpétuation de ce climat, les casserolades, l'incapacité pour le gouvernement d'avoir une relation sereine avec les Français? En tout cas, demain sera une journée importante. D'ailleurs, le 1er mai, quel que soit le contexte, c'est un moment très important. C'est la fête du travail, c'est la fête des travailleurs en France. Il y a toute une mythologie autour du 1er mai. Demain, c'est les 30 ans du suicide de Pierre Bérégovoy. Moi, je l'avais vu à l'IFOP, un moment qui avait ému, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de chaîne d'information, qui avait ému le peuple français à un niveau quasiment jamais vu s'agissant d'une relation avec un acteur politique. C'est ce qui se pose demain, baroud d'honneur ou bien on continue, les syndicats continuent et avec le calendrier, continuent à mettre la pression sur ce gouvernement, même si la loi est passée, passe et va s'appliquer.
Des syndicats qui vont donc manifester ensemble hein, dans les cortèges. Une unité qu'on n'avait plus vue, me semble-t-il, depuis 2010. Ouais. C'est parti pour durer cette unité syndicale où on voit déjà des signes qui peuvent montrer qu'elle va éclater.
On peut dire qu'il y a une différence de sociologie, même si elle est proche, entre la sociologie politique et la sociologie syndicale, entre ceux de la CGT et autres syndicats alliés, et en même temps celle de la LFI et autres partis politiques alliés. C'est-à-dire que je mets une similarité entre la sociologie de la NUPES et celle du Front syndical uni. Et donc, par conséquent, ce qu'on voit dans toutes les enquêtes d'opinion menées par Frédéric Dabi, c'est qu'il y a une volonté d'union pour mener un combat commun à l'égard du pouvoir d'Emmanuel Macron, qui s'est accentué notamment depuis 2019 et la crise des Gilets jaunes. C'est le premier élément que je vois. Donc, ils ont intérêt à vouloir s'unir, d'où le sens de la déclaration de Marine Tondelet qui dit qu'il faut un candidat unique à l'élection présidentielle. Et dans le même sens, celui qui va rompre le front syndical va être porté en fait préjudiciable et le responsable d'avoir cassé le front syndical unique. Ensuite, après, la question, c'est à perspective, à long terme, est-ce qu'ils pourront s'unir et garder la même ligne une fois qu'on passera à un autre épisode que celui de la réforme des retraites et la détestation personnelle d'Emmanuel Macron ? S'il faut s'unir pour combattre Emmanuel Macron, ils y arriveront tout à fait à s'unir. Ensuite, après, sur les différents sujets que peuvent aborder l'exécutif, donc dans la feuille des 100 jours, là, par contre, il y aura des difficultés. Est-ce que la CGT et la CFDT mèneront la même ligne sur le partage des valeurs ? Est-ce qu'ils mèneront la même ligne sur la revalorisation des enseignants ? Est-ce qu'ils mèneront la même ligne sur l'augmentation du pouvoir d'achat ? Est-ce qu'ils auront la même ligne sur l'ensemble des sujets sur lesquels la CFDT adopte une posture beaucoup plus réformiste et beaucoup plus dans le compromis, dans une logique social-démocrate, alors que la CGT dans une logique révolutionnaire d'opposants auxquels c'est pas pour autant qu'on aura un accord. Pour autant, pour l'instant, ils sont obligés de s'unir dans la mesure où ils pensent qu'Emmanuel Macron peut éventuellement ne pas signer les décrets d'application et retirer sa réforme des retraites et donc ne pas aller à la table des négociations.
C'est-à-dire le précédent CPE, mais ouais. Ça me paraît, vous avez rappelé la dégradation de la note française, même si ces agences se sont très souvent et très fortement trompées, encore plus que les sondages, si j'étais taquin. c'est vrai que là où peut-être les Français ne vous suivent pas complètement, mais j'entends votre raisonnement, cher William, c'est que les Français distinguent deux scènes. Il y a la scène syndicale qui a été plébiscitée. Les syndicats ont redoré leur blason à un niveau jamais vu, même si factuellement la bataille est perdue. Ils ont regagné crédit, popularité. Une personnalité s'est affirmée de manière incroyable, Laurent Berger, même s'il va céder la place. C'est aussi un moment où les grands chefs syndicaux passent la main à des femmes. Et puis il y a la scène politique, c'est-à-dire utiliser ce combat contre la réforme des retraites pour apparaître comme l'opposition la plus crédible. La scène syndicale a réussi. La scène politique, plus compliquée. Quand on demande dans une enquête IFOP fiduciale quel est l'acteur qui doit le plus mener le combat contre la réforme, la NUPES est reléguée très fortement derrière les syndicats. Ça ne veut pas dire que la NUPES n'est pas légitime, mais elle l'est moins que les syndicats. Quand on entend, quand on voit la scène politique, les Français disent aussi, à une petite majorité, mais l'opposant le plus crédible, l'opposante, ça a été Marine Le Pen et le Rassemblement National, et non pas la NUPES, c'est-à-dire LFI. Hein. Les Français font cette équation, NUPES égale LFI égale Jean-Luc Mélenchon, qui a joué les vociférations, les casserolades, le bruit et la fureur à l'Assemblée Nationale, etc. Donc, on est sur deux moments différents. La scène syndicale est très fortement plébiscitée. Demain, s'il y a beaucoup de monde dans la rue, ce qui est probable, elle sera encore plus renforcée, même si, soit, que faire après ? Et c'est là où il y aura deux lignes différentes. On entend la CFDT ne pas refuser complètement d'aller voir Mme Borne sur la question du droit du travail, des conditions de travail. Et la CGT, Sophie Binet, est beaucoup plus inflexible. Du côté de la scène politique, il y a une échéance, vous l'avez rappelé, pas la présidentielle, c'est tellement loin et soyons prudents de ne pas projeter le contexte d'aujourd'hui sur la présidentielle. Il y a ces élections européennes, premier rendez-vous électoral vraiment du quinquennat. Je mets de côté les sénatoriales du mois de septembre qui n'ont pas de traduction, qui concernent que très peu de Français. Liste unique de la NUPES ou bien chacun se compte à gauche, c'est là aussi que les choses vont se jouer. On entend beaucoup dire l'intérêt, notamment pour les écologistes, c'est de se compter seul parce que c'est une bonne élection pour eux. Mais on entend aussi cette petite musique d'une liste unique.
Et avant ce 1er mai, hier, on a beaucoup commenté cette finale de la Coupe de France où Emmanuel Macron était attendu et s'est rendu au Stade de France. On a annoncé de possibles débordements, des cartons rouges, des sifflets distribués aux supporters. Finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Ce n'était pas la répétition générale avant le 1er mai certains attendaient.
Oui, moi, j'étais surpris par la psychose qui a été organisée sur ce match de foot parce qu'on remarquait qu'il y a très peu de personnes qui étaient abonnées à un club de football. Moi, je suis abonné à un club de foot, donc je sais qu'il n'y a aucun supporter qui serait prêt à faire tout ce qu'avait prétendu le pouvoir et le préfet de police, c'est-à-dire rentrer dans le stade, porter atteinte au chef de l'État, parce que si par cas vous le faites, si juste vous mettez un pied sur la pelouse, vous êtes suspendu à vie. Et donc moi, je connais très bien les abonnés, les supporters de foot. Personne ne perdrait sa place uniquement pour aller manifester contre Emmanuel Macron. Le deuxième point, c'était la logique financière. C'est-à-dire que ceux qui venaient au stade devaient payer leur place. Par conséquent, il y a très peu de gens capables de payer une place uniquement dans un objectif non pas sportif, mais porter atteinte au chef de l'État. C'est le deuxième élément qui bloquait en fait l'analyse du pouvoir. Le troisième point, c'est tout simple, c'est en fait qu'Emmanuel Macron a fait en sorte de gagner, encore une fois, à la Pyrrhus. C'est-à-dire qu'il a organisé tout un système pour faire en sorte de limiter les cartons rouges, limiter les sifflets dans le stade, limiter la présence de sifflets, et faire en sorte que son image soit moins exposée à l'égard des téléspectateurs. Son image n'a pas été diffusée sur les écrans géants lors de la remise des trophées. Il a salué les joueurs à l'entrée et non pas sur la pelouse. Et donc, par conséquent, il limitait son exposition. Il s'est mis plutôt en retrait, ce qui était plutôt un bon choix. Là où je vois une limite, moi, pour lui, c'est qu'Emmanuel Macron a été élu initialement en 2017 sur une logique social-démocrate plus une alliance avec le centre, celle de François Bayrou. Et ces électeurs-là refusent les dérives dites autoritaires que pourrait incarner ce que fait actuellement Emmanuel Macron. Lorsque vous commencez à interdire des sifflets, interdire à des supporters de porter, de manifester avec des cartons rouges, etc., vous vous placez dans une logique, notamment, que dénonce François Bayrou, antilibérale. Et je pense que ça porte atteinte essentielle à l'ADN politique d'Emmanuel Macron. Il rentre en contradiction à ce que c'est que son ADN politique. Son ADN politique est la fusion des démocrates chrétiens et des sociodémocrates. Ces personnes-là ont construit la démocratie libérale en Europe dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Si par cas vous commencez à prendre des mesures autoritaires, bonapartistes, vous allez à l'encontre de cet électorat. Et ce n'est pas étonnant qu'en plus de la réforme des retraites et ce style de management qui perd son propre socle électoral, qu'il conduise à une baisse de cote de popularité durable. Mmh. Donc est-ce qu'il a gagné l'image, la bataille d'image face aux syndicats ? Oui. Est-ce qu'il va perdre son image à long terme ? Je pense que ça lui portera des dégâts profonds.
Alors, je nuancerai quand même un petit peu son socle électoral, tiens. C'est ce qui lui reste, c'est-à-dire qu'on a dans les enquêtes IFOP JDD, IFOP Fiducial pour Paris Match, trois quarts de ses électeurs du 10 avril qui sont toujours en soutien. Ça, c'est un socle qui s'est érodé, je vous rejoins, on est à 90%, c'est normal, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a moins d'un an. Ce n'est pas l'effondrement qu'on a connu chez François Hollande, la forte baisse chez Nicolas Sarkozy, mais ça tient. Et ce socle que vous décrivez plutôt bien, oui, il y a du démocrate chrétien, il y a du sociodémocrate, il y a de la droite libérale qui veut que le pays se transforme. Il y a aussi des rémanences du parti de l'ordre. C'est-à-dire, oui, la contestation, parfait. Les manifestations, ok. La surdinon. Et c'est vrai, là aussi, c'est un... Vous allez dire, je suis très sévère pour les chaînes infos que j'aime bien, que je participe parfois, mais on a monté tout un événement autour de cette finale de la Coupe de France. Mmh. On a connu François Hollande sifflé en 2015-2016. Mmh. On a connu, j'étais petit, François Mitterrand, avant la cohabitation de 86, se faire malmener. D'ailleurs, à cette époque, sous François Mitterrand, je crois même sous Jacques Chirac, la cérémonie de remise du trophée se faisait dans les tribunes. Donc, il est revenu, bien sûr, vous avez raison, il s'est plutôt protégé, mais il ne s'est rien passé. Maintenant, c'est vrai que cette dérive autoritaire, cet autoritarisme, est quand même perçu par les Français. Dans une enquête IFOP fiduciale récente, les deux traits d'image qui étaient le plus fortement appliqués au président Macron, c'était autoritarisme et c'était qui vous inquiète. Alors qu'au début du mandat, c'était quelqu'un qui a de l'autorité. Et l'autorité en France, c'est quelque chose qui est plutôt valorisé, cette verticalité du pouvoir, parce que l'autorité permet d'agir. Agir, c'est changer d'avis. Et changer d'avis, c'est respecter la promesse du politique. Mais c'est vrai que il n'y a pas eu de mise en scène, mais le fait qu'il ne soit pas allé sur la pelouse, le fait qu'il n'ait pas été visible, qu'on ait cité le préfet de tel ou tel, le président du conseil départemental, toute une série de personnalités, sauf le chef de l'État, au moment où la Coupe de France, c'est aussi un moment de concorde nationale. Il y a eu une image très célèbre dans les années 60 où un jour de finale de Coupe de France, le ballon tombe dans la tribune présidentielle du stade Colombes, je crois, et c'est le général de Gaulle qui passe la balle aux joueurs. C'est un moment où le président doit être présent. Et je me trompe peut-être, et vos éditeurs me corrigerez, le président a été présent à quasiment, les présidents de la 5e à quasiment toutes les Coupes de France. C'est vrai que son effacement de la scène peut poser question, même si, une fois de plus, il a la durée, il a encore 4 finales de Coupe de France, même celle de 2027, il aura ses dernières heures de président de la République, ça sera son successeur, sa successeur qui seront peut-être avec lui dans les tribunes, il sera encore au Stade de France.
Et au-delà de cet épisode du Stade de France, on voit que tous les déplacements des membres de l'exécutif, le président et aussi les ministres sont perturbés. Il y a des comités d'accueil, des casserolades. Est-ce que si ça se poursuit, ça peut durablement avoir un impact sur l'opinion ?
Ah oui, moi je pense que ça c'est plus dangereux pour Emmanuel Macron que les syndicats et les manifestations du 1er mai. Je vais prendre deux points. Le premier, c'est que chaque déplacement du président de la République se fait maintenant dans des circonstances dites aggravantes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se déplace ou un de ses ministres se déplace, il a un comité d'accueil. Ça veut dire que le propos du ministre devient inaudible. Et la traduction concrète, désolé, je vais faire une infidélité à l'IFOP, c'est qu'il y a un sondage qui est sorti dans Odoxa qui dit que 65% des Français n'écoutent plus le président de la République lorsqu'il parle. Et c'est ça le point intéressant.
Oui,
ça
veut dire elle est très limite, hein, cette question, mais je vais en parler après, excusez-moi.
Ça veut dire que, l'action de l'exécutif, et donc les fameux 100 jours d'Emmanuel Macron, ont une portée limitée. Les 100 jours devaient avoir trois utilités. La première, c'était d'apaiser et de constituer un autre épisode après la réforme des retraites. La deuxième, c'était constituer et préparer de nouveaux chantiers. Et la troisième, c'était donc du coup pouvoir reconquérir l'opinion publique. Mais comment vous pouvez reconquérir l'opinion publique si par cas vous ne pouvez plus parler aux Français, hormis sur votre propre socle électoral? Et donc moi, je vois une limite, c'est qu'il ne peut pas élargir sa base sans un accord. Or, il ne veut pas d'accord et il ne peut pas lui-même élargir sa propre base électorale en parlant à des Français. Et donc ça pose une question essentielle. Est-ce que finalement Emmanuel Macron n'a pas gagné cette bataille de la réforme des retraites, mais je pense que c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire qu'il lui coûtera plus cher à long terme que ce que ça lui rapporte. Premier point, la note sur la dette française qui porte atteinte à sa crédibilité financière et sa crédibilité réformatrice, auquel dans le rapport de Fitch, il indiquait qu'il n'y aura pas de réforme à long terme et que tout son capital politique et son capital financier va être écrémé par une politique budgétaire expansionniste. Le deuxième point, c'est qu'en fait, il n'a plus de possibilité, il n'a plus de relance de marge de manœuvre et il ne peut plus se relancer auprès de l'opinion publique. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a une limite et je pense qu'il doit reprendre non pas les 100 jours pour faire de l'apaisement, mais pour reprendre l'initiative politique. Et donc son objet, c'est de trouver pendant 100 jours, non pas les moyens de reconnecter avec l'opinion publique, mais avec les grands leaders d'opinion pour en fait avoir une assise assez forte pour pouvoir proposer un nouveau projet aux Français.
Frédéric Dabou.
Alors, la démonétisation, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et je ne vais pas citer des sondages, je vais citer des faits objectifs. 65% des Français qui ne l'écoutent plus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne l'entend plus? Qu'est-ce qu'on met derrière? C'est une forme de, c'est une autre manière de dire qu'il est impopulaire et que les Français le rejettent. Ouais. Hein, c'est vraiment, en ce moment, c'est lui contre nous. C'est extrêmement envenimé. D'ailleurs, preuve qu'il n'y a pas de démonétisation. Ces deux dernières interventions ont été écoutées ou vues par 12 millions d'un côté et 16 millions de Français de l'autre. Donc, on n'est pas dans la démonétisation, la parole inutile qu'on avait connue à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. Ça ne veut pas dire que les choses se passent bien, mais il y a encore une appétence parce que c'est un président, et je pense que le Covid a joué, quand il a pris la parole à plusieurs reprises, c'était pour annoncer des choses qui changeaient nos vies. Exemple, ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Maintenant, les casserolades. Sur le court terme, je pense que vous avez complètement raison. Une enquête IFOP fiduciale montrait que 60% des Français trouvaient justifié que des ministres soient accueillis par des bruits de casseroles. Maintenant, sur le moyen terme, une fois que la colère va retomber, peut-être qu'elle ne retombera pas, mais si elle retombe, une fois qu'on sera moins sur cette radicalité autour de la réforme des retraites, elle va passer, les Français vont s'habituer ou pas, mais en tout cas, elle va s'inscrire dans le temps long et dans le bilan. Est-ce que les Français attendent des partis d'opposition, par exemple la France insoumise, des bruits de casseroles? Est-ce qu'ils attendent des casserolades? N'attendent-ils pas des propositions, un cap, un projet alternatif? Emmanuel Macron propose ça, nous voulons ça. Ils le font, bien sûr, ces différentes oppositions. Mais tout miser sur du bruit, de la fureur, des vociférations, est-ce que c'est ce qu'attendent les Français? Clairement et trois fois, je dis non.
Alors justement, on va parler de l'opposition et du Rassemblement National qui lui organise demain un rassemblement au Havre, dans la ville d'Édouard Philippe. Est-ce que c'est une manière de récupérer, en tout cas d'occuper le terrain en ce 1er mai?
Moi je pense qu'elle a plusieurs objectifs. Elle a toujours voulu, à la différence de son père, changer de type d'électorat. Donc, on l'a vu, lorsqu'elle a pris le Rassemblement National, elle avait beaucoup plus d'électeurs ouvriers, beaucoup plus d'employés, de catégories employés intermédiaires qui ont voté pour elle. Donc, une bascule des anciens électeurs communistes, même si ce n'est pas totalement exact, enfin, les catégories électorales qui ont basculé de la gauche vers Marine Le Pen. Donc, pourquoi le 1er mai? C'est pour avoir une alternative aux fêtes syndicales du 1er mai, de la fête du travail. Le deuxième point, c'est que je pense que ça permet d'aller au Havre sur le potentiel favori de la prochaine élection présidentielle et de poser des premiers jalons en vue d'une campagne contre Édouard Philippe qui apparaît comme le candidat des partis de gouvernement le mieux passé pour la faire battre. Là où je vois une difficulté pour Marine Le Pen, même si elle a des avantages. L'avantage, c'est que elle profite lors de la réforme des retraites d'une double déception, celle de la NUPES et celle du parti au pouvoir. De la NUPES parce qu'ils n'ont pas réussi à convertir la demande sociale en objectif politique, que ce soit pour le retrait de la réforme des retraites ou des concessions de la part du pouvoir en termes de pouvoir d'achat, comme ce qu'avaient obtenu les Gilets jaunes en décembre 2018, etc. Et le parti du gouvernement qui n'a pas réussi à maintenir l'ordre à la fois à l'Assemblée nationale et également dans les rues, dans la mesure où ça ressemble davantage à la chienlit qu'un parti auquel on a la sécurité, etc. Et donc du coup, en profitant de ces deux éléments-là, elle a réussi à monter dans toutes les intentions de vote, comme ça s'est montré dans votre sondage, en passant de près de 20% à 30% d'intention de vote. Là où je vois une difficulté pour Marine Le Pen, qui est double, c'est est-ce que c'est pour autant cette dynamique lui permet d'être majoritaire? Lorsque l'IFOP, que vous dirigez, a mené une enquête lors du quinquennat Hollande, elle avait déjà atteint ses niveaux d'intention de vote entre 30 et 35%.
Non, moi, même un peu moins,
elle a déjà atteint 30%, même si ce n'était pas 35-37.
Ce n'est pas le même contexte, je trouve, mais je vous écoute.
Et le point, c'est est-ce qu'elle arrivera à devenir majoritaire, donc réunir 51%? Cela, c'est la première difficulté que je vois. C'est-à-dire qu'elle peut profiter de la déception, ce n'est pas pour autant qu'elle devient majoritaire dans le cadre d'une élection à deux tours. Le deuxième point que je vois auquel elle n'a pas réglé lors de la réforme des retraites, c'est son problème dit de compétences, qui s'est manifesté lors des débats de second tour contre Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Elle n'a pas montré qu'elle avait des capacités économiques et sociales pour pouvoir diriger le pays. Est-ce que vous gagnez une élection présidentielle sur l'économique et sociale? Non. Est-ce que vous perdez une élection présidentielle parce que vous êtes nul sur ces sujets-là et vous n'êtes pas crédible? Je pense que oui. Est-ce qu'elle a répondu, par exemple, aux problèmes et aux problèmes français profonds entre la rigueur budgétaire et le soutien à des demandes sociales? Non, elle n'a pas résolu. Est-ce qu'elle a résolu le clivage entre la demande de ses électeurs, qui est de ne pas pouvoir travailler plus tard, et en même temps de financer le régime des retraites à long terme? Est-ce qu'elle a résolu les problèmes d'équilibre entre les problèmes de commerce, de protectionnisme et d'ouverture de la France au marché extérieur? C'est toutes les questions auxquelles elle n'a pas répondu, et je pense que c'est ça son point essentiel, notamment si par cas elle va au Havre et qu'elle compte affronter Édouard Philippe en 2027.
Vous allez un peu vite en besogne. 2027, c'est dans 4 ans. Oui. C'est pas aujourd'hui qu'elle gagne ou qu'elle perd la présidentielle. Déjà, le 1er mai pour le FNRN, c'est pas anodin. C'était des défilés, c'était Jeanne d'Arc, etc. Jeanne d'Arc, oubliée, aux oubliettes. On va même pas à Paris comme par le passé, on va au Havre, chez Édouard Philippe. Maintenant, si je rebondis sur ce que dit William Tay, je pense que quand vous avez quelqu'un qui est deux fois de suite au second tour et qui a 13,5 millions de voix et 41,5%, on doit, et c'est notre travail de professionnel, se dire que sa victoire en 2027 n'est pas un non-dit, n'est pas un scénario impossible. Je ne dis pas qu'il est probable ou certain, personne ne peut le dire. Les points faibles ont été quand même gommés. L'assise électorale, vous avez raison. Aujourd'hui, hein, l'enquête IFOP fiduciale pour le Figaro Magazine, la seule catégorie où elle est très faible, ici et maintenant, alors qu'avant il y en avait énormément, ce sont les cadres supérieurs et les professions libérales. Deuxièmement, la capacité à être un parti attrape-tout, un parti de gouvernement est là. Du fait de son assise électorale. Et puis, il y a quand même quelque chose. Elle n'a jamais été au pouvoir. Le côté alternatif par rapport à ce qui a été vu comme des échecs peut être un moment très fort. Maintenant, bien sûr, on est très loin de l'échéance. La question de la compétence a été résolue. Une enquête sur ses traits d'image, 47% des Français la jugent compétente. C'était 27% au moment du fameux débat de 2017. Mais il y a toute une série d'éléments de faisceaux qu'on peut apporter, qu'on peut mettre sur le débat. On est tellement loin de ce qu'est une présidentielle, un contexte, des forces politiques, une situation, un rapport de force, et c'est pas aujourd'hui, en 2023, qu'on va trancher les choses sur elle va gagner, elle va perdre. En tout cas, c'est intéressant d'aller chez Édouard Philippe, celui qui est quand même aujourd'hui, ici et maintenant, celui qui est le plus fort, le plus légitime favori de l'axe central, ni NUPES, ni RN.
Et pour terminer, peut-être on va évoquer la gauche et la NUPES. Ce 1er mai, c'est aussi l'occasion d'afficher encore l'unité. Même, est-ce que ça va durer, cette unité au sein de la NUPES, même si on a déjà vu des signes de division?
Très rapidement, les sympathisants de gauche n'y croient pas. Une enquête IFOP pour l'Humanité montre qu'une majorité d'entre eux voient la NUPES comme une coalition électorale. Ils sont quasiment 1 sur 2 à dire que Jean-Luc Mélenchon est un handicap pour la NUPES, mais puisqu'il y a cette équation NUPES égale LFI égale Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, la NUPES a une carte à jouer dans la perspective de ces élections européennes. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à l'Union? Je n'y crois guère parce que c'est quand même une élection de marque partisane où chacun doit se compter. Mais des reconfigurations, on entend des choses qui font dire qu'on n'est pas quand même... il reste une zone d'incertitude sur le visage que va proposer la NUPES, avec aussi, au sein de la NUPES, une remise en cause timide, mais réel, du leadership de Jean-Luc Mélenchon.
William T.
Je pense qu'ils ont une difficulté, c'est l'assiette et le nombre d'électeurs qu'ils ont. Ça veut dire que, qu'importe les enquêtes que vous prenez, tant que c'est Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui mènent la NUPES, ils ont un problème d'assise électorale, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas 30% des Français.
Tour, ouais.
Et la difficulté qu'ils ont, c'est comment élargir, alors que dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon est l'assurance vie pour pouvoir maintenir un groupe parlementaire fort en cas d'un premier tour, donc 150 députés. Mais il est le problème pour pouvoir être majoritaire au second tour. C'est la difficulté qu'ils ont. Et il y a un point que je trouve intéressant, c'est que celui qui progresse le plus, c'est celui qui est le plus anti-Mélenchon et celui qui s'écarte le plus de la stratégie de Mélenchon, c'est Fabien Roussel.
Ouais, c'est vrai. Tout à fait.
François Ruffin aussi est assez...
François Ruffin, alors Jean-Luc Mélenchon le traite. Il le voit comme son héritier. Il lui dit à toi de jouer, même si 4 ans avant un vote, François Mitterrand avait fait 6 mois avant 80 avec Michel Rocard. Ce type de promesse n'engage que ceux qui le reçoivent. Mais c'est vrai, je partage ce que dit William Tay. Les personnalités anti-Nupes sont plutôt bien perçues. Bernard Cazeneuve, qui est directement en 8e place dans le baromètre qui voit fiducial pour Paris Match. Fabien Roussel, qui apparaît clairement comme celui qui veut mettre à mal la Roussel, qui, la Nupes, pardon, qui voit cette coalition comme simplement une coalition électorale. Mais aujourd'hui, le principal souci, et je comprends ce que vous dites, c'est un problème d'espace électoral. Le centre de gravité entre ce que souhaitent les sympathisants de gauche et les élus de la NUPES penche plutôt du côté des sympathisants de gauche. Il y a un décalage, le centre de gravité est trop à gauche du côté des élus de la NUPES par rapport à ce que souhaitent et ce que veulent les sympathisants.
Merci infiniment à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir. William Tay, président du think tank Le Millénaire, et Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. À suivre le journal de 19h. À tout de suite sur Europe 1.